Bonjour, bienvenue pour la 11e édition de Lire et écrire sur Studio Zef 91.1 en FM et en podcast sur studiozef.fr, Lire et écrire, où vous retrouverez toutes les émissions. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter un enregistrement d'un atelier d'écriture de la LEP. La séance dure 2 heures. Dans un premier temps, je donne le thème. Ici, il s'agit d'Augustin Burroughs, un auteur américain, et la consigne sera un jeu avec les mots que j'ai nommés le chat pitre. Cet enregistrement est fait dans le cadre des 50 ans de la LEP à Blois.
Donc, je vais vous parler d'Augustin Burroughs. Donc, c'est un monsieur qui a eu des tas de problèmes dans sa vie d'adolescent, puisque, en fait, ça se passe dans l'Amérique des années 70. Sa mère est complètement psychotique. Elle se fait tripoter par la femme du pasteur en déclarant des poèmes. Son père est alcoolique, qui teste très bien le couteau de pain sur la gorge de sa femme. Et de son psy et tuteur légal, encore plus déjanté, qui lit l'avenir dans ses étrons. Une Bible à la main, Augustin verra bien ce qui va arriver. En attendant, il vit tout simplement, il pense à l'avenir, il sera star ou docteur ou coiffeur, il s'arrêtera de manger des croquettes pour chat ou pas. Récit d'une adolescence pas comme les autres, dans une époque pas comme les autres. Alors avec une adolescence comme ça, certains pourraient se dire ça le mène au suicide direct. Parce qu'en fait, il a été complètement abandonné par sa mère chez le psy, qui est un mec qui est complètement fou. Et pas du tout, il s'est mis à écrire. Donc ça, c'est son premier livre, hein, « Courir avec des ciseaux ». Et il a fait 3 best-sellers de suite. Donc, alors il faut dire aussi qu'il a découvert très tôt qu'il était homosexuel. Et il assume totalement. Donc voilà, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne tout en dérision. Et d'ailleurs, il a dédicacé son livre, son premier livre, à un auteur français. Cherchez le ridicule en tout, vous le trouverez. C'est de Jules Renard, 1890. Donc tout est avec lui, tout ce qui se passe dans sa vie est ridicule. Donc il tourne tout en dérision, en permanence. Ce qui fait qu'en fait, c'est sordide, mais on est mort de rire. Voilà. Alors, j'ai préparé pour faire un truc simple qui aujourd'hui va aller impeccable avec les enregistrements. On va tenir les délais. Bon, je dis pour nos deux nouveaux, nos nouvelles. Donc c'est un chapitre. Chapitre. En fait, j'ai pris les premières phrases de chaque chapitre. Je vais vous les distribuer. Vous écrivez, vous regardez ce qui est marqué et vous trouvez une suite. Donc vous écrivez une autre phrase derrière, une seule phrase. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à votre voisin de gauche. Et les feuilles vont tourner comme ça. D'accord? Ouais, c'est pas. Non, mais de ta gauche à toi. Là, ça tourne comme ça, d'accord? On va dire même dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis quand on aura fini, qu'on aura fait à peu près une dizaine, douzaine de phrases, à ce moment-là, je dirais, en fonction du temps, je dirais de faire la phrase de conclusion sur la feuille qui est devant vous. D'accord? Et puis ensuite, on lira les feuilles qui sont devant vous. Ça ne sera pas forcément... Donc il y aura tout le monde sur les feuilles. Mais par contre, ça va donner quelque chose de... Comment dire? Ça va être assez surprenant, parce que chacun va essayer de ramener à autre chose, vous voyez? Vous essayez de faire de l'humour, par exemple, des choses comme ça. Donc vous ramenez sans arrêt les... À chaque fois que la feuille, elle passe devant vous, voilà. Alors ça donne après un texte qui est complètement délirant et qui est un texte collectif. Voilà. Donc je vous distribue les feuilles.
Voilà, c'est parti. Nous allons écrire sur la feuille qui se trouve devant nous. Et puis on va faire tourner les feuilles et réécrire sur la phrase suivante de la feuille qui revient vers nous, et ainsi de suite. Thank you. Voilà, maintenant que les conclusions sont sur les feuilles, chacun va lire la feuille qui se trouve devant lui. Et voilà, on va écouter les textes fabuleux qui ont été construits ce jour.
Nadine. Fern Stewart était femme de pasteur et très amie avec ma mère. Elle s'enfermait tous les soirs à la nuit tombée dans notre petite église. Les cloches carillonnaient pour avertir les habitants. Le meilleur moment pour elles deux, c'était la préparation des fêtes de Noël et surtout de la crèche vivante dans l'église. Je n'avais jamais compris le lien entre ces deux femmes si différentes et me posais la question pour comprendre ce qui était aussi attirant dans l'église. La religion, de toute façon, les réunissait, mais j'ai souvent pensé que leur devis n'était pourtant pas basé sur les mêmes principes. Quand elles furent sorties de l'église, elles discutaient encore et encore, marchant sans repère. Elles se retrouvèrent au beau milieu d'un champ, se regardèrent interloquées. « Que faisons-nous là, Fern, au beau milieu des betteraves ?»« Oh là, je suis sûre que le diable y est pour quelque chose. » Et là, les betteraves se mettent à fondre. Mais avec la magie, elles sont reconstituées. J'en ferai des fleurs pour mettre sur les assiettes comme décoration. Et les betteraves fondantes font comme un ruisseau de sang dans le beau milieu du champ. Lorsqu'elles ouvrirent les yeux, tout avait disparu. Les betteraves, la rivière rouge, la réalité n'étaient pas belles à voir. Les mœurs d'aujourd'hui ne sont plus les nôtres. Mais qu'est-ce que les mœurs d'aujourd'hui ont à voir là-dedans ? Que peut-on en faire avec des betteraves ? On les épluche, les coupe en petits dés avec une vinaigrette balsamique. Elles ont meilleur goût avec quelques morceaux d'ail. Surtout que l'ail éloigne le diable, ce qui correspond aux principes religieux de ces dames. Mais Satan avait plus d'un tour dans son sac. Un jour, il alla, durant le sommeil du pasteur, lui souffler ces quelques mots. « Coucou, mon petit pasteur adoré. Tu as bandé les yeux du Christ, mais pas les miens. Je ne suis pas cloué sur la croix. » Et tu sais, ta femme est vraiment, vraiment belle à croquer. Ses yeux, je me les mangerais bien. Ah bon, tu m'en laisses un. Bouillis, frits, en fricassé. Il y a tellement de manières de les accommoder que je comprends mieux tout d'un coup que le sultan ait autant de favorites. En effet, une favorite égale deux yeux. Le plaisir de la chair n'est pas celui de la guerre. Mais si, à la guerre on tue, on fait des cadavres, qui mijotés dans un grand faitout feront un excellent ragoût. Et si on veut, on pourra accommoder tout cela avec une sauce rouge comme le sang, à base de betterave.
Et quand bonheur.
C'était un samedi après-midi lumineux avec de minces bandes nuageuses flottant très haut dans le ciel. Des étoiles brillaient dans le ciel, un chien hurlait dans la rue. Lorsque la porte a claqué, tout le quartier a sursauté. En sentant une odeur bizarre, l'atmosphère était lourde et cependant, notre étrange personnage n'était pas encore passé. Le décor est installé, l'atmosphère se fait sentir, l'action peut donc commencer. Que va-t-il se passer ? Le chien arrêta de hurler et regarda la lune qui lui faisait face. Elle lui sembla inaccessible, ce qui ne l'empêcha pas de sauter de plus en plus haut pour essayer de l'atteindre. Bien que le chien ne pouvait pas l'attraper, celle-ci semblait de plus en plus grosse, comme si à chaque aboiement, elle tombait vers nous. « Ah, ce morveux ! Il pense m'attraper, mais ce n'est pas un petit chiot qui me fait peur. Je vais grossir, grossir jusqu'à devenir le fantôme de la terre. Je n'aurai jamais cette idée-là, car j'aurai la discrétion de me cacher dans la cave. » La lune continue de s'approcher de plus en plus et fit bientôt planer une ombre large sur les peupliers près de la rivière. Doucement, la nuit se montrait. J'étais là, en présence de ce chien qui s'excitait et la lune, plus brillante que jamais et qui voulait en finir avec ce chien. Mais je compris bientôt qu'il ne s'agissait que d'un rêve, qu'un chien qui aboyait dans le lointain avait fait naître en moi ce dialogue improbable avec la lune. Pourtant, à un moment, le chien disparut de mon rêve et se retrouva à Califourchon sur la lune. Enfin, il put se reposer. Ainsi, depuis ce jour, quand on entend un cri lugubre dans la nuit de pleine lune, ce n'est pas un loup-garou, mais le chien qui essaye d'enfanter la lune et qui tourne autour de nous depuis la nuit des temps. Pour donner chaque pleine lune des lunes aux chiens parmi la galaxie. Adieu chien, chat, couvé, je n'ai plus beaucoup de ressources. À la prochaine pleine lune, je promets de laisser à ma porte tous les os de poulet ou de canard que vous voudrez. Et depuis chaque nuit, en regardant le ciel, je me demande si chaque étoile ressemble aux lunes aux chiens. Et cela m'inspire tellement que j'en fis une collection de bandes dessinées. Les lunes aux chiens vont au bowling, les lunes aux chiens vont au sport d'hiver. Et la dernière, les lunes aux chiens au gouvernement. Ce fut Neil Armstrong, après un alunissage, qui ramena le chien sur la terre, qui avait pris un coup de vieux, mais maintenant il ne sautait plus, il volait.
Marie-Martine. Ma mère se contemple dans le miroir de la salle de bain. Elle sent la dame élégante sur le départ. Pas sortie de sa salle de bain, qu'elle commence à changer d'allure et surtout des effluves de son parfum me chatouillaient agréablement les narines. Il y avait des jours où elle ne sortait pas de la salle de bain, se demandant quelle était la personne qui la regardait. Elle sentait ce regard, mais une femme qui se fait belle et heureuse qu'on la regarde. Alors elle laisse faire et c'est comme ça que j'ai tout su de la féminité. Très souvent, je regardais par le trou de la serrure et les soirs venus, je m'enfermais à mon tour dans cette salle de bain pour y revoir sa féminité. J'en sors bien vite en m'habillant devant la cheminée car il faisait très froid. J'ai enfilé des guêtres sur mon pantalon, des gants, un bonnet et une écharpe d'1m80. J'avais affronté la tempête de neige. Dans le miroir de la salle de bain et de la féminité, je courais dans cette neige cherchant je ne sais quoi attiré par le croassement des corbeaux. En fait, je pense maintenant, avec le recul, que la neige, pour moi, représentait la pureté, le blanc dans son immensité. Et je devais alors avoir l'impression de me profiler, de me nettoyer de tout mal intérieur. Malgré la tempête de neige qui s'annonçait, mon seul souci constituait à me demander si je devais cuire le poulet ou le canard, ou les deux. Il y avait tellement de neige qu'un ragoût de renne serait envisagé. Mais revenant sur tel que je me suis dit qu'un ragoût de renne avec du poulet devrait suffire à nous combler d'aise bien au chaud, près de la cheminée. La cheminée, ah oui, mais il nous faut monter sur le toit. Il faut monter sur le toit et passer par cette foutue cheminée avant de manger, car la porte ne s'ouvre plus. J'ai peur que nous allons griller avant de manger. Avec des seaux d'eau, nous allons pouvoir sauver ces pauvres gens et ils vont pouvoir enfin manger. Et pourquoi les sauver? C'est le repas qu'il faut sauver. Avant, tant pis pour eux s'ils n'en ont pas. À l'intérieur, nous étions dans un refuge. On entendait les voix de « il fallait faire vite ». Notre repas était cuit. Nous n'attendions pas ces étrangers. Le couvert fut mis. Nous mangerions avec les doigts. Mon Dieu, que c'était bon et de se régaler, sinon quand le ventre était vide. Quand le repas fut terminé, nous remangeâmes. Nos couchages étaient difficiles de s'endormir avec le bruit de la tempête qui s'abattait sur les fenêtres le soir. Le vent hurlait, les loups hurlaient, les chouettes ululaient, les gens dehors eurent le sang glacé d'horreur. Tant ce jeu-là, ce n'était que givre et neige, à perte de vue. Le lendemain, le soleil brillait et le vent était arrêté. On aurait dit sur les fenêtres des étoiles. Et pour nous réchauffer, nous prenions un bon chocolat et des croissants. Nous étions tous heureux et tout redevenait calme dehors.
Quand une pulsion me pousse aux conjugales audaces, non point qu'elle me repousse, elle devient tout de glace. Une seule fois l'année, la veille de la Toussaint, elle commet le péché avec. Sentimental. conserver l'amour, le froid est souverain. Quant à l'aspect sexuel de sa féminité, de ma 1er novembre, en fin nuit de sabbat, je sens réduire le monde des plaisirs d'un Cuba. Acceptez-vous, Astrid, mon épouse reste quoi? Cette passivité, malgré nos conventions de périodicité, pourtant elle demeure muette, qui ne dit mot qu'on sent. À ce propos m'inquiète l'odeur qu'Astrid répond. Néanmoins défoulée, j'aperçois de la sorte l'évidente vérité.
Dominique, on pourrait imaginer que mon inclinaison pour les vêtements habillés remonte à l'époque où j'étais encore dans le ventre de ma mère. Il paraît que je bougeais davantage les soirs de bal. Les soirs, ces soirs-là, je m'habillais de strass et de paillettes. Mais bien sûr, à cet âge-là, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les paillettes. Peut-être des pailles en forme de balayettes ou d'allumettes pour faire des brochettes pour l'école, pour le calcul. Des allumettes en paille, ce doit être super pour allumer un grand feu. À chaque bal, voyant ces belles dames habillées tout en long, je rêvais de voir ce qu'elles pouvaient bien cacher. Les soirs où mes parents sortaient, j'allais puiser dans la garde-robe de ma mère. J'adorais passer ainsi ses toilettes, habiller et me maquiller pour moi aussi avec l'illusion de sortir. De toute façon, je n'avais pas le droit de sortir. Je devais finir mes leçons, faire mon lit, m'occuper de mon petit frère. En fait, j'étais la bonne de la famille, malgré mes 7 ans. 7 ans de bagne, oui. Un jour, je serai libérée. Je mettrai une jolie jupe très courte, un soutien-gorge rembourré, des bas résines, et je ferai du stop sur la nationale. Là, sûr, quelqu'un s'arrêtera, et le bonheur d'être enfin moi arrivera. Je pourrai, cheveux au vent, crier ma joie. Avec mes aventures de femme, je serai la première aux Jeux Olympiques, pour allumer la flamme et gagner une médaille pour l'athlétisme. En effet, depuis que j'avais changé de sexe, de nouvelles disciplines s'offraient à moi. Je n'arrivais pas à comprendre qui j'étais. J'admirais les robes longues, je voulais les porter, mais au fond de moi, j'étais plutôt garçon. Je refoulais sans cesse cette attirance. Et puis un jour, je découvris le monde de la danse, car une amie m'avait invitée à aller voir un ballet. Là, pendant cette représentation, tout s'éclaira. Non, je ne serai pas ni docteur ni coiffeur. Je serai danseur. Je pourrai alors me montrer maquillée au vu et au su de tous. Quelle revanche je pourrais prendre ainsi? Je devrais au préalable en parler à mes parents, car il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'être choisi dans une école de danse. Mais qui croyait finir comme celles qui, mariées, font toute la journée du ballet et prennent une danse quand le mari arrive bourré à la maison. Le ballet, la bourrée, tout cela a un rapport avec la danse. Donc, est-ce que je reste à la maison à danser la bourrée avec mon ballet ou je décide de danser la bourrée dans le bar du coin? D'un côté, je serai une femme à la maison ou de l'autre, un homme au dehors.
Voilà, c'est bourré de caca de faton, mais c'est pas grave.
Annie, le docteur Finch s'est calé dans sa chaise pivotante en rotin et a croisé ses bras derrière la tête. Il a levé la tête, fixant la croix au plafond et se mit à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de cette vieille machine à laver? Les chats du quartier auraient bien besoin d'un bon nettoyage. Et le jardin aussi, tout le monde se met au travail. Mais la bonne volonté ne suffit pas toujours et nombre de plantes aromatiques se retrouvèrent sur le tas de compost. Est-ce volontaire ou quelqu'un aurait-il eu l'idée de les récupérer pour préparer certaines potions? Tout le monde savait en effet que le docteur Finch faisait peu d'ordonnances mais préparait lui-même dans bien des cas des potions magiques ou d'autres élixirs. Sa réputation avait franchi les limites du comté et beaucoup de ses patients venaient de très loin le consulter. C'était pour lui demander de lire l'avenir, surtout celui de la bourse ou du prix des betteraves, qui, comme on le sait, fluctue en fonction du prix du sucre et vice-versa. J'étais toujours étonnée lorsqu'il prenait les betteraves entre ses mains et qu'il me disait « Je vois une douleur dans le dos ». Et une autre au genou également. Quant à la tête, n'en parlons pas. Non, je ne vois rien. C'est plutôt dans les épaules. Alors, je prie une betterave, je l'applique et je ne ressens plus de douleur. La betterave bienfaisante du docteur Finch. C'était un peu prétentieux comme slogan. Publicitaire, non. Il faut le reconnaître, le docteur n'était pas à son premier essai. Il cultivait bien les betteraves, le seul légume qui poussait dans son jardin et qui masquait ses mauvaises intentions. Encore des betteraves, toujours des betteraves. Mais qu'ont-elles donc comme pouvoir? Moi qui ne vois en elles qu'une entrée à cuisiner en vinaigrette, elles sont sucrées, rondelettes, pas très hautes, ne font jamais de l'ombre à quiconque, nourrissent toute la famille et ne disent jamais rien. Bref, un amour de betteraves. Le docteur Kern, après ses consultations, aimait se promener dans la forêt qui longeait sa propriété. Pour y dénicher des plantes souvent pas très catholiques, il lui arrivait parfois de creuser à main nue, car il pensait que pour lui, le seul raccourci pour aller en Chine était de traverser tout simplement par le centre de la Terre. Mais j'ai bon creusé, je ne cherche pas, j'ai une bonne vue et ça ne me saute aux yeux naturellement, ces herbes un peu drôles et l'odeur m'inspire. Il avait déjà creusé une dizaine de trous rectangulaires, à peu près de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, régulièrement espacés. Est-ce pour y enterrer les victimes de ces mauvais traitements? À ce jour, je n'en connais pas la raison.
Catherine, le tableau de mon existence se complétait d'un frère biologique de 7 ans mon aîné. Il me pourrissait la vie en se prenant trop souvent pour un père, et je prenais un malin plaisir à tourner ses phrases en dérision. Mais il était là, c'était cela l'important, car j'avais besoin d'une référence et d'un modèle, et ce rôle ne pouvait être tenu que par lui. Enfin, s'il s'agissait vraiment d'un frère biologique, il était un peu trop littéraire pour cela. Il faisait toujours référence à la phrase d'un livre. Du coup, on l'avait, moi et mes potes, surnommé le révérend. Il aurait pu aller rejoindre ma mère et la femme du pasteur à la nuit tombée. Tous les trois, ils firent l'amour et ça leur plaisait terriblement. Pourtant, ils savaient que c'était un gros péché. Mais c'est peut-être ça qui les émoustillait autant. Ils revenaient vers moi, rouge comme une pivoine, et semblaient oublier que j'étais là. Alors je prenais sa main et le tirais vers moi. Je voulais qu'il raconte. Je ne comprenais pas tout. Qui faisait l'amour? Avec qui? À trois? Comment fait-on? Bref, toutes ces questions me trottaient dans la tête. Est-ce qu'on fait l'amour comme faire une tarte ou faire le ménage? Dans d'autres pays, c'était interdit, donc caché. En résumé, on avait le droit de faire l'amour seulement dans une église. Le pasteur ne voulait plus y faire cela avec sa femme depuis le jour où il entendit au cours de l'acte une voix terrible lui dire « T'as de la chance que j'ai les pieds cloués !» Et depuis, dans ce petit village, tous les Christes des maisons et de l'église ont les yeux bandés. Mais cela ne les empêche pas de parler. Nous sommes agenouillés pour prier et remettre de l'ordre dans les maisons. Ça manquait de respect. Et peut-être qu'avoir les yeux bandés, c'est pire encore, car toute l'imagination peut s'en donner à cœur joie. Votre Dieu est bien faible pour laisser à son peuple de tels comportements. Attendons à présent le jugement dernier. Mais les enfants, alors, ils ne poussent ni dans les choux, ni dans les roses, ça je le sais. Alors, Dieu dans tout ça? On sait très bien qu'Ève fut extraite d'une côte d'Adam. Alors les enfants, de quoi furent-ils tués? Mais des champs de betteraves, bien sûr.
Bon ben, je vous remercie d'être venu pour cette séance qu'on intitulera « Le secret des betteraves ».
Ouais, ça a l'air vraiment super. Bon. Et par contre, excuse-moi, Armand, t'as la cravate de travers, là. Pas l'enregistrement, mais enfin, c'est bien de... Bon, on va envoyer la sauce, là. T'es prêt? C'est bon? Allez, on y va.
chanson ennuyeuse. Il s'y passe strictement rien. Ça fait des jours que je me creuse, mais tous mes efforts restent vains. La mélodie n'a qu'une note, le rythme en est primitif. Ça a un peu un goût de flotte à l'heure de l'apéritif. La la la, et le refrain. La la. Peut-être si on monte le tempo, ce serait un peu plus rigolo. Allez, allez, on monte le tempo. Ouais, bon. Et si on le fait un peu plus lent? Non, je crois que c'est encore plus chiant que c'est chiant.
Super. Ah non, super, super, super. Par contre, je me disais juste un truc, parce que ça, c'est un peu une parodie d'un morceau ennuyant, quoi. Alors, bah, oui, mais justement, est-ce que la parodie ne va pas être aussi ennuyante qu'un vrai morceau ennuyant, c'est...
Mais non, mais justement, c'est une mise en abîme.
D'accord.
Et ça continue. L'apanage de nos artistes, alors je trouve ça normal que de rester conformiste. La la la, et le refrain. La la. Cette chanson est un cauchemar, mais elle colle bien à l'époque. J'serai nominé aux victoires et chroniqué dans les un rock.
C'est le moment de la consigne. Prendre un livre au hasard dans votre bibliothèque, l'ouvrir toujours au hasard et écrire la première phrase du chapitre suivant. Ensuite, continuer l'histoire ainsi débutée.
Quand on m'a dit vous ne passerez plus à la radio, j'ai répondu au réalisateur Coco, on s'en branle. On s'en branle. Les interviews bidons et les succès disco, on s'en branle.
Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Mes parents ont répondu d'un ton distingué. On s'en branle,
voyez-vous ma chère. On s'en branle. Du moment qu'il s'amuse et qu'il nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron du Zénith nous a dit vos chansons ronds. C'est pas pour le Zénith, on y a dit le Zénith. On s'en branle.
On s'en branle.
On s'en branle.
On s'en branle. On s'en branle.
Voilà encore un mec qui nous engagera plus. On s'en branle.
Communistes ont dit pour la fête de l'humain, on a le regret de vous dire que vous n'y passerez pas, on s'en doute.
On s'en doute. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en branle.
Allez à toi Michel, sois Jonas, tu es Jonas comme une vache.
Univers unique.
Toi le blues, et toi Michel, Jonas.
Non, les maisons, la culture n'ont pas confiance en nous, on n'est pas culturel et puis on a des coups, on s'en blouse. On s'en
branle.
On a même des morpions maintenant, vous savez tout, on s'en branle.
Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord, mais si j'en parle dans mon journal, on me fout de...
On s'en branle. On s'en branle.
vous l'avez qu'à écrire que vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Avec vous c'est pas drôle, on ne peut rien arquer sans que vous répondiez que vous vous en branlez. On branle tous quelque chose de délicieux. C'est facile de vivre avec la sexualité,
mais on s'en branle. Wow. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des causes lointaines. On s'en branle. On s'en branle à leur foi.
On ne veut pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'en met.
Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. Et si vous voulez goûter aux ateliers d'écriture, venez à celui de l'Alep Loire, les mardis de 14h15 à 16h15. Au revoir.
On savait pas comment l'appeler, notre petite communauté, qu'on n'était pas tout à fait une, disons notre maison commune. Il la mon rêve, on y a pensé,
mais quelqu'un l'avait déjà trouvé. Villa mon repos, c'était kitsch, mais pas un de nous n'était kitsch. Alors un soir qu'on avait bu, on l'a appelé Villa mon cul. On a cherché dans le bottin si c'était pas nom d'emprunt. Bah vous allez être étonnés, personne l'avait utilisé. Non, pas un seul propriétaire n'eut cette idée élémentaire, à croire que la propriété engendre la débilité. Nous qu'on croyait que c'était banal, on s'est dit ben non, c'est génial. Fiers d'être des innovateurs, on est allé chez un graveur qui s'est marré comme un tordu en imprimant Villa mon cul.
Eh ben ça me change,
nous a-t-il confié,
de ceux qui viennent me trouver pour que je baptise leur niche à con. Villa les roses, Villa mignon.
Ah oui, ça existe, il y en a.
Eh ben Villa mon cul, n'empêche, c'est pas pareil.
Oh bah non, c'est mort, c'est pas pareil.
C'est un nom qui...
Oui.
Comment on dit ? C'est un nom qui chie à l'oreille.
Voilà.
Même avec une très mauvaise vue, on pouvait lire Villa mon cul. À 300 mètres de la baraque, où que c'est qu'on a fixé la plaque.
Le soir même, les riverains,
les autochtones et les voisins,
ont fait la queue devant chez nous
pour voir cet outrage au bon goût.
Il y a eu comme une espèce de break,
et d'une seule voix, bravo les mecs.
On a dansé toute la soirée dans les jardins sur la chaussée. On a envahi comme des bêtes toutes les mémés, toutes les nénettes. Et tout le monde chantait dans la rue, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul. Un magistrat soulevant sa robe
alla jusqu'à crier
mon zob.
Comme c'est lui qui nous a jugés,
on a tous été acquittés.
Rap,